C'est le quatrième épisode de ma série consacrée à l'année 1972. Au programme, une mutinerie à la prison de Nancy, un incendie qui ravage le yacht d'Aznavour, des toreros qui se mettent en grève et Michel Delpech au sommet.
1972, on de la raconte sur Europe 1.
Le 15 janvier 1972, à la maison d'arrêt de Nancy, en Lorraine, des détenus réussissent à monter sur les toits. Et ils déploient une banderole sur laquelle il est écrit « On a faim ». Très vite, les pompiers sont appelés en renfort des policiers pour les déloger.
Les détenus sont maintenant beaucoup moins nombreux sur le toit de la prison, une vingtaine environ. Les autres sont descendus se réchauffer à l'intérieur des bâtiments. Ce matin, les pompiers réquisitionnés par la police ont tenté de déloger les détenus qui se trouvaient sur le toit en braquant sur eux leurs lances d'incendie, mais ils ont dû rapidement battre en retraite, comme me l'a expliqué ce lieutenant des sapeurs-pompiers de Nancy.
Pour nous, c'est extrêmement délicat dans la mesure où ces gens-là sont en bordure des toits, il nous est difficile d'accéder d'une part, dans la mesure où on approche à proximité, vous avez vu ce qui se passe, on prend des tuiles. Vous avez vu, regarder le véhicule qui passe, dans quel état il est. Bon, ben, c'est un véhicule qui est obligé de repartir en carrosserie, ça.
Vous estimez qu'il y a un danger réel?
Ah, incontestablement, il y a danger pour les sapeurs-pompiers. On prend tous les matériaux, il y en a des marteaux, des tuiles, des éléments de chauffage, etc., qui nous arrivent sur le dos. Alors,
vous ne pensez pas que...
Notre position est extrêmement délicate et il nous est difficile de faire autrement.
Pendant plusieurs heures, les mutins dressent des barricades à l'aide de sommiers métalliques et ils détruisent une partie de la toiture. Devant l'entrée du centre pénitentiaire, des centaines de curieux assistent à la scène.
C'est pas très joli, non. C'est pas très... Moi, je pense pas que ce soit des enfants de cœur. Moi, je pense pas non plus qu'une manière forte soit nécessaire, mais avec un peu de psychologie, on pourrait peut-être les calmer.
Je trouve que c'est lamentable de laisser les prisonniers faire ce qu'ils veulent. Vous devez rétablir l'ordre, à n'importe quel prix. Et je suis persuadé que les États limitrophes de notre pays ne permettraient pas cette honte, qui est une insulte à l'ordre public.
Qu'est-ce que vous proposez comme solution?
La manière forte. Sommation. Pas de reddition, on attaque.
Si beaucoup de badauds sont scandalisés par l'action des détenus, il y en a d'autres qui comprennent, au contraire, leur désarroi.
Depuis des années et des années que ça végète et il a fallu que ça éclate un jour.
Quelle est l'origine, à votre avis, de cette révolte, de ces révoltes dans les prisons?
L'oisiveté de ces jeunes. On les laisse pendant des mois et des mois dans les cellules à rien faire et à se grouper. Et à se monter le coup, quoi. Ils sont démoralisés au fond.
Tu dois être malheureux là-dedans, non?
Vous avez quelqu'un qui est là?
J'ai mes deux frères. Pour les coller, non, et puis tout, pour le manger, et puis tout, hein. Ils sont pas très heureux non plus là-dedans, hein. Ils ont raison, moi je dis qu'ils ont raison. Vous croyez que c'est bien pour eux? T'es toujours enfermé comme ça et pour quoi tu as rien du tout, quoi.
Même c'est votre mari qui est là ou votre frère?
Mon frère! Il est fou, il lui reste plus que 6 mois à faire, je me demande pourquoi il veut. Ma mère qui est malade, il est fou! Rentre!
Cette jeune fille que vous venez d'entendre a son frère parmi les détenus qui se trouvent sur le toit de la prison. Il n'a plus que 6 mois de prison à faire, leur mère est malade, elle le supplie de rentrer et de se rendre, mais comme ses camarades, il ne veut rien entendre.
En fin d'après-midi, les détenus ne sont toujours pas retournés en cellule. Et donc les CRS appelés en renfort décident de donner l'assaut. L'assaut a été rapide et efficace. Maurice Lambert, le préfet de Meurthe-et-Moselle, s'en félicite.
L'affaire est actuellement terminée et je puis vous affirmer que l'intervention des forces de l'ordre a été faite d'une manière très énergique, mais également avec beaucoup de sang-froid. Le bilan actuel, c'est 3 blessés du côté du service d'ordre et 3 blessés du côté des détenus. Mais en vérité, il s'agit de blessés légers.
Si le bilan humain est léger, les dégâts matériels sont considérable. L'intérieur de la prison a été totalement saccagé. 6 détenus sont rapidement identifiés, dénoncés par l'un d'entre eux en échange d'une remise de peine. En juin 1972, lors du procès, leur avocat, Maître Leclerc, dénonce une mascarade.
Vous êtes vous-même venu à plusieurs fois, vous avez dit plusieurs fois, de même que votre collaborateur, Maître Renaud, que les 6 inculpés qui étaient là, disons, n'étaient pas en nombre suffisant.
Oui, Maître Do et moi-même sommes bien convaincus, je pense comme tout le monde ici, qu'en réalité, on a pris 6 inculpés et que ces 6 inculpés sont en quelque sorte les boucs émissaires de l'ensemble de la prison de Nancy. Alors je ne sais pas si les magistrats seront convaincus de cela, nous n'avons pas encore entendu le réquisitoire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un certain nombre de prisonniers sont venus dire qu'au fond tout le monde était d'accord, que ça a été décidé sans qu'il y ait de meneurs, et qu'on ne comprend pas très bien pourquoi si malheureux sont aujourd'hui là, il semble qu'ils soient les boucs émissaires de la prison Charles III, mais aussi les boucs émissaires de l'ensemble des révoltes qui se sont passées dans les prisons.
À l'occasion de ce procès, le premier du genre en France, le grand public découvre les conditions d'incarcération des détenus. Et elles sont loin d'être reluisantes.
La nourriture est infecte. Certains dortoirs ne sont pas chauffés. Le directeur de la prison, M. Caprelli, un homme visiblement de très bonne foi, dira que dans sa prison, il n'y a pas de cours pour la formation professionnelle. Il n'y a pas non plus de radio ni de télévision, sauf pour les très jeunes détenus. Il n'y a pas non plus de conférences ni de cinéma. Certains dortoirs, ajoute-t-il, n'ont pas de WC. Le matin, dit un détenu, nous avons une demi-heure pour nous laver. Or, nous sommes 70 et il n'y a que 4 robinets qui coulent.
En attendant, les 6 inculpés reconnaissent avoir participé aux émeutes, mais ils nient en être à l'origine.
Ils diront tous, l'un après l'autre, qu'ils ont participé à la révolte de la prison Charles III, mais que personne ne peut dire qui a provoqué cette révolte. Tour à tour, maître Henri Leclerc et maître Alberneau diront « Alors, pourquoi n'a-t-on poursuivi que les 6 qui sont ici ?» Tous les détenus de Charles III devraient être présents. On a choisi ces 6 qui sont là parce qu'ils avaient des casiers judiciaires chargés.
À l'issue du procès, les 6 inculpés sont condamnés à des peines de 5 à 8 mois de prison ferme.
Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Durant l'été 1972, de nombreuses vedettes du music-hall se retrouvent à faire la une des journaux, et pas uniquement pour des motifs réjouissants. Charles Aznavour, pour commencer, voit son yacht partir en fumée à Mandelieu-la-Napoule, sur la Côte d'Azur.
Le voilier de Charles Aznavour, un fjord de 34 pieds, baptisé Nouchka, a pris feu après l'explosion d'une bouteille de gaz et a coulé devant le port de Mandelieu-la-Napoule. Voilà tout ce qu'il reste de cette magnifique embarcation. Quelques débris calcinés. Charles Aznavour a déploré la perte de ce magnifique yacht, tout neuf, et qui de plus appartenait à son beau-frère. Je l'avais très peu utilisé l'année dernière, c'est le bateau de la famille Aznavour, et personne, a-t-il déclaré, n'aura pu en profiter véritablement. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés.
Je rentrais tranquillement au port après une promenade d'une heure et demie. Presque immédiatement, j'ai vu de la fumée qui sortait, quoi. Ouais.
Qu'avez-vous fait à ce moment-là ?
J'ai appelé la sécurité du port.
Ils sont venus tout de suite ?
Oui, j'étais à 30 mètres. Le capitaine du port est venu, les remorqueurs sont venus, tout de suite, quoi.
Quelle est la cause de l'accident ?
La cause de l'accident, je sais pas du tout, c'est la première fois que je m'en servais cette saison. C'est un bateau dont je me sers depuis l'année dernière.
C'est un très beau bateau, paraît-il.
C'est un bateau qui fait 10 mètres, qui était en plastique, qui était bien installé. Surtout, il y avait de très beaux appareils de précision dessus, de navigation. C'est ça qui était important. Vous savez, le plastique, ça se consomme vite, ça brûle vite. Il n'en reste plus rien avec du plastique. Il reste les moteurs, bien sûr. De la coque, de tout ça, il ne reste rien du tout.
Le chanteur Richard Anthony, lui aussi, vit cet été-là une expérience inoubliable. Je le laisse vous raconter.
J'étais avec mes enfants, un bateau, et j'étais arrivé à la hauteur du milieu du golfe de Saint-Tropez, c'est-à-dire loin de toute terre, enfin. Et puis je vois un petit you-you en caoutchouc, et je vois deux petites têtes blondes. Je leur fais signe comme ça pour leur dire bonjour, et puis je remarque une chose, c'est qu'il n'y a pas de rame, et que vraiment ce you-you est vraiment très petit, et qu'est-ce qu'il fait si loin, et comment il va rentrer? Alors intrigué, je fais demi-tour, et je vais vers le bateau, et je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois deux petits Allemands, jeunes, enfants, sans rame, sans rien, complètement hébétés, froids, parce qu'il faisait pas beau, et le mistral soufflait. Alors, je les ai pris en bateau, puis j'ai cherché leurs parents, ils m'ont montré vaguement le camping d'où ils étaient venus. Là-bas, il y avait personne de compétent pour les accueillir, alors je suis allé à la capitainerie du port de Coguelin, Et je leur ai dit, écoutez, il doit y avoir certainement un avis de recherche par les CRS où il doit y avoir un bateau en mer qui les cherche. Alors appelez par radio. Et puis ils ont retrouvé les parents.
Cette mésaventure qui aurait pu se terminer en drame hein, est l'occasion pour le chanteur de pousser un coup de gueule.
Moi, ce que je trouve absolument inadmissible, et ce qui est incroyable, c'est que ces plages-là, il y a des CRS, il y a des moniteurs, enfin je ne sais pas quoi, il y a des gens quand même dans ces campings qui surveillent. Il y avait un poste de CRS, puisque je suis allé. Et un petit canot qui s'éloigne comme ça, qui commence à aller très très loin, je ne comprends pas comment les milliers de gens qui étaient là n'aient pas pu voir une chose pareille. Peut-être les parents ont dit à leurs enfants, bon, on va aller jouer sur la plage, mais vous savez que pour que les enfants ne s'éloignent aussi loin, c'est moi, écoutez, moi je suis un père de famille, je fais confiance parfois à mes enfants, mais je suis toujours aux aguets pour savoir où ils sont.
Tout est bien qui finit bien, heureusement. C'est aussi ce qu'a dû se dire Fernand Reynaud cet été-là. À Paris, il est victime d'un malaise à son domicile. Un malaise qui provoque une hémorragie interne. Hospitalisé en urgence, il se remet heureusement assez vite. C'est le gardien de son immeuble qui raconte tout ça.
Monsieur Reynaud vient de me téléphoner que je lui porte des journaux. Il y a du mieux.
Il se sentait bien hier ?
Ben, très très bien, ça l'a pris d'un seul coup. Et hier, il a passé toute sa journée à répéter ses numéros ici. Semblant de rien, ça l'a pris d'un seul coup. Que ce matin, il a dû passer à la radio et tout ça, là, on ne sait pas.
Mais son état n'est pas alarmant pour l'instant.
Pas pour le moment.
Et en interrogeant le gardien de l'immeuble, on en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Ça, c'est tout, un gardien.
Monsieur Fernand Reynaud, à 8h, s'est senti pas très bien. Alors, de suite, on a appelé le docteur qui lui a fait une piqûre, il a dit avec ça, il va dormir. Et à 10h, on est monté voir s'il dormait, et là, il s'est mis à rendre du sang. Alors après, j'ai appelé le docteur qui me dit tout de suite une ambulance, il faut qu'on le transporte à l'hôpital. Alors d'après ce qu'on dit maintenant, il va beaucoup mieux. Alors je vais retourner tout à l'heure avec Madame Reynaud, je verrai ce qu'on nous dira là-bas à la clinique.
À votre avis, qu'est-ce que c'est exactement ?
Il a fait une hémorragie interne.
C'est très grave.
Est-ce qu'il paraît d'après le docteur, de la clinique, ça va mieux, c'est déjà maintenant. Et je dis qu'il pourrait peut-être sortir dans le milieu de la semaine.
Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a réagi quand vous êtes venu pour nous ?
Et il n'a pas perdu le nord. Il a gardé tout son sang-froid, mais il sentait vraiment qu'il était à bout de force.
Le lendemain, René Reynaud, l'épouse de Fernand, donne à son tour des nouvelles rassurantes de l'humoriste.
Je l'ai vu ce matin et il m'a demandé ses journaux et puis maintenant il veut jouer à la belote. Alors c'est que ça va, quoi.
Qu'est-ce qu'il a eu exactement ?
Bah, c'est un ulcère, quoi. C'est ça, alors. Forcément, ça a déclenché une hémorragie. Mais maintenant, ça va.
Et le moral, lui, toujours pareil ?
Oh, bah, lui, là, il a un moral d'acier. Il prend toujours les choses du bon côté.
Fernand Reynaud reste hospitalisé 4 jours. Et sa première interview, eh bien, c'est à Europe numéro 1 qu'il l'accorde.
Ce serait un peu de mauvais goût de décrire sa maladie, parce que si chacun venait à Europe dire « Alors, là, je vous expliquer, moi j'ai eu mal au ventre, alors ça s'est passé comme ça, et vous, ben, moi j'ai eu mal aux oreilles, et moi aux pieds, je souffre », je pense que ce serait pas très sympathique. On peut dire simplement que j'ai eu un ulcère qui s'est ouvert, et puis voilà, et puis j'allais vomir, et puis voilà, c'est arrivé. Au bout de 5-6 fois, eh bien, on est tellement fatigué, vanné, on est écroulé par terre dans la salle de bain, et alors à ce moment-là, on vous amène à la clinique.
Et quand ça vous arrive brutalement, est-ce que vous avez le temps de penser à quelque chose ?
Pendant quelques instants, là, j'ai cru que, comme vous dites, j'ai dit, tiens, je vais y passer, là, on pense. Mais on n'a pas envie de rire, hein. Non. Mais sitôt que ça va mieux, on pense à retrouver des nouveaux gags. Mais on a trop parlé, hein, faut pas trop embêter les gens, on va écouter de la musique. Simplement, une petite chose, ce qui m'ennuie, c'est le régime que j'ai à faire maintenant. Champagne, caviar, foie gras, obligatoire, et alors du homard, que du homard. Alors j'ai dit au docteur, homard, rien que vous avez le droit de temps en temps à la langouste. Mais oui, c'est un régime draconien.
Allô, docteur ? Pourquoi tu tousses ? Alors moi, là, ce qui se passe, je suis au petit café à côté de la douane, là. Je suis avec les douaniers, là. Allô, docteur ? Pourquoi tu tousses ?
Thank you.
That day I'll always remember. Yes, I will. Cause there was a day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
Temptations avec Papa Was a Rolling Stone en 1972.
On de la raconte, Christophe Ondelatte.
En mars 1972, les toreros espagnols sont en colère. Le ministre des Finances espagnol en veut à leur portefeuille. Jusque-là, ils ne payaient que très peu d'impôts. Mais c'est terminé. Et donc, ils se mobilisent avec un argument. Les corridas et les ferias font marcher le tourisme. Et à ce titre, ils veulent donc conserver leur avantage fiscal. Et donc, ils se mettent en grève. L'ancien rugbyman Pierre Albaladejo et le journaliste Roger Coudert, deux figures du Sud-Ouest, n'en reviennent pas.
Ils viennent se mettre en grève. C'est tout de même assez extraordinaire, des toreros en grève.
Et alors, les toreros, justement, le syndicat des toreros, sous la conduite de Paco Camino, se sont mis en grève. On ne les a pas pris au sérieux. Et puis voilà que les cartels sont faits pour la Feria de Séville. Et vous savez, la Feria de Séville est une des plus belles d'Espagne, courue par tous les aficionados du monde entier. Et c'est surtout cette fiesta de Séville qui sert, si vous voulez, de tremplin aux toreros. C'est-à-dire que celui qui triomphe à Séville signe des contrats pour toute l'année. Alors c'est très important. Et l'organisateur de Séville s'arrache les cheveux. Il ne sait pas si ces toreros feront le paseo.
Et bien entendu, les toreros les plus fortunés sont les plus remontés.
Combien peut toucher pour une grande corrida un grand torero?
Mais écoutez, c'est suivant la plaza où il tord. Mais en moyenne, si vous voulez, un garçon comme Paco Camino, si vous voulez, est un garçon qui touche 500 000 pesetas, c'est-à-dire 4 millions d'anciens francs pour une corrida. Antonio Ordóñez, lui, vient de se retirer, touchait 550 à 600 000, 700 000 pesetas, mais il allait jusqu'à 5 millions et demi, 6 millions pour une corrida.
Et le Cordobès?
Le Cordobès, alors lui, c'est le phénomène. Le Cordobès, si vous voulez, nous le touchions en France quand il venait à Mont-de-Marsan, à Dax, à Bayonne, aux environs de 10 millions de francs pour une corrida.
C'est tout de même assez scandaleux.
C'est assez scandaleux, si vous voulez, surtout quand on sait que le Cordobès, par exemple, lui, ne payait pratiquement pas d'impôts. D'ailleurs, à ce sujet, le Cordobès avait menacé, il y a déjà 2 ans de ça, de se retirer en prétestant qu'il avait reçu une feuille d'impôt qui était assez douloureuse. Alors il avait déclaré, puisque c'est ça, je ne t'aurai plus. Et là, on a vu tout le monde s'élancer vers la propriété du Cordobès, le supplier à genoux de revenir, que l'Espagne avait besoin de lui, que le tourisme avait besoin de lui. Et lui, d'un geste large, a dit, écoutez, ça ne tient qu'à une chose, il n'y a qu'à déchirer la feuille que j'ai reçue. Ce en quoi le représentant du ministre du Tourisme a dit, écoutez, je suis venu pour vous déclarer que vous pouviez la déchirer, cette feuille.
Le dictateur espagnol Franco finit par leur donner raison. Il annonce le maintien de l'avantage fiscal. Et du coup, la grève s'arrête. Un mois plus tard, c'est au tour des toreros français de tirer la sonnette d'alarme.
Aujourd'hui, la carrière d'un torero français est un véritable calvaire. Tout jeune, le voilà confronté à des problèmes financiers énormes. Il n'existe pas d'école dans la douzaine de villes taurines comptées en France. De ce fait, il devra se former tout seul. Mais pour cela, il devra louer les arènes, louer ou acheter les taureaux à 200 000 anciens francs l'un, acheter ses costumes très coûteux, à tel point que certains préfèrent les confectionner eux-mêmes. Il lui faut donc un budget considérable. Ensuite, en admettant qu'il puisse apprendre ce rude métier et parvenir au stade de noviero, si par hasard un contrat lui est offert, il devra savoir qu'il ne jouit d'aucune protection sociale, puisque cette profession n'est reconnue par personne en France, n'en déplaise aux aficionados, et que blessé plus ou moins gravement, les frais seront pour lui.
Au-delà de ça, ces toreros français disent qu'ils souffrent de l'ostracisme des Espagnols, qui ne les laissent pas torer chez eux.
Mais en France, ils ne sont pas mieux lotis du fait tout simplement que la plupart des corridas, à Nîmes, à Béziers, à Fréjus, ailleurs, sont organisées par des Espagnols. Rafael Garcia, par exemple. Un peu par chauvinisme, beaucoup pour complaire à ses amis, il casera sur ses affiches depuis les toreros, les quadrillas, jusqu'aux taureaux. Et pratiquement jamais un torero français.
Dès lors, les toreros français créent un syndicat.
Les choses sont ainsi, et c'est pour tenter de sortir de cette condition déplorable que plusieurs toreros, des Nîmois pour la plupart, Bernard Don et Alain Moncouquiole, nom d'arène Simone Casas et El Nimeno, viennent de créer une association afin de mieux défendre leur profession. Le maire de Nîmes, président de l'Union des villes taurines, les assure de son soutien. Des animateurs de feria, de corrida, ont déjà pris la décision de laisser une place sur leurs affiches. Nîmes, Alès, Saint-Gilles, par exemple, à des toreros français.
Cette même année 1972, figurez-vous que les footballeurs français, eux aussi, se mettent en grève. Ils réclament des augmentations.
On voulait éviter cette grève parce que, je sais pas ce que, le footballeur professionnel qui fait grève, l'opinion publique va être choquée, je crois. On ne se rend pas compte que c'est un métier comme un autre. C'est un métier qui demande énormément de sacrifices. Malgré tout, nous sommes au stade pratiquement tous les jours. Nous faisons des sacrifices au point de vue, je vous parle, alimentaire, vie privée, vie sexuelle, qui paraissent bénignes, mais qui sont des choses qu'il faut faire pendant 10, 15 ans. En plus de ça, nous n'avons pas de liberté, pratiquement pas de liberté, pratiquement pas de vie familiale. Alors il faut comprendre que ce métier, on le défend, on veut le défendre. C'est effarant de voir qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. On n'est quand même pas que du muscle, on a aussi de la cervelle, je m'excuse de parler comme ça, mais ce n'est pas que des hommes de muscle, c'est tout.
En tant que joueur de football, que pensez-vous de ceux qui ne seraient pas solidaires?
Ceux qui ne viennent pas, je ne sais pas s'ils pourront se regarder dans une glace, c'est tout.
Est-ce que cela laissera des marques sur les terrains de football, vous pensez, cette affaire?
Écoutez, je vous assure, c'est justement pour cette raison que nous avons tout pesé, nous avons tout essayé pour éviter cette grève, parce que, bien sûr, ça va laisser des marques, c'est inévitable. Et croyez-moi, on en est conscient, et c'est pas de gaieté de cœur qu'on a pris cette décision.
Exaspéré, Alfred Wenger, le président du Racing Club de Strasbourg, annonce qu'il jette l'éponge. Il démissionne et il embarque avec lui ses millions.
Moi, je démissionne de la section professionnelle. Je m'en occupe plus de grévistes qui n'ont pas de raison pour faire la grève. Je les ai toujours payés et j'ai respecté mes contrats. Alors, il n'y a pas de raison. Et ils ont fait la grève sans me prévenir. Et demain, je vais fermer le bureau pour 8 jours. Je m'en vais en vacances. Je fais la grève 8 jours et la paye reste au bureau jusqu'à ce que je revienne. Je m'occupe plus du professionnalisme. C'est fini. Sous des conditions pareilles, pas faisables, pas pensables, comme nous sommes structurés en France. C'est pas possible.
Et l'équipe de Strasbourg va continuer, vous
pensez? Bon, ça, je m'en fous. Hein. Ça, l'équipe de Strasbourg, je l'avais 5 ans. J'ai cautionné pour 100 millions de mon fric personnel. Ça me suffit. Hein.
Après 2 semaines de turbulences, les footballeurs professionnels rentrent dans leur rang. Et la journée de championnat qui avait été annulée est finalement jouée. Et c'est un jeune auditeur de la Cour des comptes, qui trouve un accord définitif entre footballeur et président de club. Il s'appelle Philippe Seguin et il édite la charte du football professionnel.
Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Qui sera sera, qui sera.
C'était Mike Brandt avec Chi Sarà, une reprise de Chi Sarà du groupe italien Ricci et Poveri.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1972, ne mentons pas, consommer des aliments sans pesticides n'est absolument pas à l'ordre du jour.
Manger n'a jamais été affaire de sentiment. Que ce soit en laboratoire ou dans les champs, on ne tue pas les mouches ou les insectes par plaisir. Tout simplement, ce qu'ils mangent se retrouve en moins dans nos assiettes. Alors, pour augmenter notre ration 30% en une vingtaine d'années, on s'est donné avec les pesticides les moyens de détruire ces concurrents gênants. Si grands que l'homme qui leur donne le feu vert officiel avant commercialisation ne sait plus aujourd'hui combien de tonnes de ces produits sont déversées chaque année sur la France.
Je n'ai pas de statistiques sur l'utilisation des pesticides en France.
On ne sait pas combien il y a de tonnes utilisées en France chaque année.
On ne sait pas exactement. On ne peut avoir que des estimations.
Mais en février de cette année 72, le journaliste décide de tenter une expérience. Faire analyser des denrées alimentaires par un laboratoire. Ça se passe à Montpellier.
Ont donc été analysées deux salades, des farines, du fromage, des citrons, des oranges, du pain enfin. Or, le résultat de ces analyses qui nous a été transmis est, disons, un peu troublant. Car seuls les citrons et une farine ne recelaient aucun résidu de pesticides. Deux produits sur huit seulement. Disons tout de suite que les autres n'étaient pas toxiques pour autant. Simplement, ils confirment l'idée que la chimie, ces résidus, font aujourd'hui partie de notre nourriture, qu'on le veuille ou non.
Cette même année 72, on commence aussi à se préoccuper des polluants dans les cours d'eau. Comme ici dans le canal de la Bruche, en Alsace, où une entreprise n'a eu aucun scrupule à déverser du cyanure.
Sur une longueur de 10 km, tout a été détruit. Et les conséquences futures, on ne le sait pas encore, parce que cette cyanure est certainement entassée dans les trous. Et quand il y aura des autres sauts, ça peut continuer. Et ça peut se jouer jusque vers Strasbourg.
On a dit ici qu'il y avait des tonnes de poissons morts qui étaient charriés par la Bruche. Est-ce que c'est vrai?
Il y a certainement des tonnes et des tonnes de poissons. C'est malheureux que les interventions nous ont été prévenues ou nous étions prévenus trop tard. On aurait au moins pu éviter la pollution du canal, de la Bruche. Je crois que les services de responsabilité de cette usine, ils auraient dû visiter avant de mettre l'usine en marche.
Vous pensez qu'il y a une sorte de négligence de la part des responsables de cette usine?
Et on peut dire que, vraiment, au point de vue sécurité, c'était une négligence.
Des contestataires anti-pollution commencent à se faire entendre, comme en ce mois d'avril où 6000 manifestants se rassemblent à Paris pour dénoncer la pollution urbaine. On les voit traverser la ville à bicyclette, en trottinette ou chaussée de patins à roulettes.
Nous avons fait cette manifestation pour protester contre l'abondance des voitures dans Paris, tant au point de vue circulation, pollution par le bruit que par les gaz d'échappement.
Nous ne sommes pas contre l'automobile en tant que fait, en tant que moyen individuel de circuler d'une ville à une autre, mais à l'intérieur des grandes villes et surtout dans les centres, ça nous paraît ne pas être cohérent.
Mais qui êtes-vous vous-même?
Moi, je suis président des Amis de la Terre. C'est l'organisation qui a lancé le mouvement.
Ce qu'on demande surtout, c'est la régularisation de la circulation dans Paris, la mise à disposition de vélos communautaires pour les Parisiens.
Et qui les paierait?
Qui les paierait? Eh bien, le gouvernement.
Le vélo gratuit pour tous les Parisiens!
En attendant les vélos gratuits pour tous les Parisiens, ces cyclistes ponctuels savourent le fait de pouvoir se déplacer sans voiture autour.
On voudrait la liberté de la circulation, mais on ne voudrait pas être asphyxié par la pollution.
C'est un petit peu une découverte, moi j'aime bien le vélo, mais c'est quand même assez amusant qu'on traverse tranquillement Paris en une demi-heure. Enfin là on s'amuse, mais sans forcer avec ma femme qui fait jamais de vélo. S'il y avait un peu plus de vélo, un peu moins de bagnoles, un peu plus de transport en commun, non polluant et beaucoup plus de vélo, et on aurait beaucoup moins de difficultés à circuler, on serait beaucoup plus heureux.
Bon, réduire ou supprimer les voitures n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais le gouvernement travaille à d'autres propositions. C'est ce que promet Robert Poujade, le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement. Et parmi les solutions proposées...
Voiture électrique, oui. J'encourage d'ailleurs les recherches sur la voiture électrique. J'ai financé ces recherches sur le budget du ministère de l'Environnement. Actuellement, on n'a pas trouvé la petite voiture électrique. Pas chère, pas lourde, et ayant une certaine autonomie, une certaine vitesse. Ça viendra, il faut chercher. Interdire les voitures dans le centre des villes, à la vérité, le problème, c'est que la majorité des Français vivent et surtout vivront dans les villes dans les prochaines années. Jusqu'à présent, ils paraissent n'être pas capables de se passer de leur voiture, même lorsque on leur propose des transports en commun. Alors, je ne suis pas dictateur, nous ne vivons pas dans une société de contraintes. Si nous étions dans une société dictatoriale, ça pourrait peut-être se faire. Ça me paraît, à vrai dire, difficile, mais il faut tout de même essayer de faire des rues piétonnières, tout en sachant qu'on ne peut pas demander à la fois des rues sans auto et la possibilité d'aller en voiture tous les soirs jusqu'à son domicile. Il faut choisir.
Et en la matière, en 1972, on commence à prendre des initiatives. Comme dans le quartier Saint-Séverin, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame. Un arrêté préfectoral interdit désormais la circulation et le stationnement dans cet îlot de rues étroites. Sur place, riverains et commerçants sont, comment dire, divisés.
Pour moi, c'est quelque chose de très gênant. D'abord pour les livreurs et puis pour nous personnellement. Si on a besoin de faire une course, il faut garer la voiture très loin du magasin, c'est pas du tout pratique. S'il faut avoir une voiture et puis prendre un taxi ou le métro pour aller chercher sa voiture, c'est même plus la peine d'avoir une voiture.
Vous dites Notre-Dame c'est trop loin, mais tout de même, s'il ne peut pas faire 200-300 mètres à pied, ils n'ont plus de jambes alors. Hein. Non, je crois que les voitures, on a commencé à en avoir ras-le-bol et l'unanimité trouve cette mesure très bonne, très très bonne.
C'est pas commode pour les personnes qui ont les voitures dans le quartier. Hein. Ah non, ça je vous assure. Alors ils disent que ceux qui ont un garage dans le quartier peuvent rentrer, mais il n'y a pas de garage dans le coin. Il n'y a pas un garage dans le coin. Eh bien, il va falloir mettre la voiture en parking et payer 25 000 francs par mois.
Ça sera beaucoup moins pollué.
Au point où on en est. Hein.
Pour nous hôteliers, parce qu'il faut se mettre à la place du touriste qui va venir vouloir apporter ses bagages devant l'hôtel. Bon, si à côté gens... de ça, je dis bien sûr que le quartier Saint-Séverin est un quartier qui se visite à pied, pas en bagnole. Voilà, n'est-ce pas? C'est comme le Mont-Saint-Michel ou Saint-Malo. Hein, celui qui a une voiture qui habite dans le quartier peut la laisser autre part, d'après moi, et venir à pied, se promener à pied. Moi, j'ai pas de voiture ici à Paris.
On de la traconte. Christophe Ondelatte.
En janvier 1972, Michel Delpech reçoit un disque d'or à l'occasion du MIDEM de Cannes.
Les affaires marchent très bien au MIDEM. Elles se traitent dans les nombreux stands du Palais des Festivals entre deux cocktails. Les cocktails, une véritable institution à l'occasion de laquelle se côtoient candidats à la célébrité et vedettes confirmées. Une de ses plus brillantes mondanités fut la remise à Michel Delpech d'un disque d'or pour un millionième 45 tours.
Monsieur Morricone.
C'était Eddie Barclay, Henri Salvador et Ennio Morricone, l'auteur de nombreuses musiques de films, telles par exemple Il était une fois dans l'Ouest, qui ont remis ce disque d'or à Michel Delpech.
Ben oui, le voilà. Mais prenez-moi avec quand même. Attends.
Cette même année 1972, Michel Delpech est programmé en vedette à l'Olympia. C'est la toute première fois.
Dites-moi, rappelez-moi, c'est bien la première fois que vous le faites en vedette.
Ah oui, en vedette, oui.
Et vous pensez que ce sont toutes les chansons comme Lorette, Pour un flirt, La vie, qui vous ont amené sur la scène de l'Olympia en vedette?
Je pense que oui, une succession de chansons à succès, succession de chansons
oui,
à succès, ça aide bien sûr, mais enfin je pense que maintenant, j'espère du moins que les gens vont venir voir pour moi et non pas pour mes chansons, parce que ça, ils les connaissent déjà. Moi, ils me connaissent moins déjà.
Et pour cette première fois en vedette, comme on disait, le chanteur se produit durant 3 semaines.
Oh la vie, la vie, la vie, la vie. Si belle soit la vie, c'est une tombola. Mais la vie, la vie, la vie, la vie. Si moche soit la vie, c'est un joli combat. Oh la vie.
Finalement, Michel Delpech, la vie, c'est quoi pour vous?
La vie, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une partie de rigolade, ça peut être l'angoisse. Ça peut... Pour moi, ça doit se dérouler tout simplement. Je crois qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre. Vivre sa vie, c'est tout.
Est-ce que dans la vie courante, vous êtes un angoissé, un inquiet?
Je le suis moins que je ne l'ai été, parce qu'il était une époque où j'étais très très inquiet. Bon, tout m'énervait, tout m'angoissait. Maintenant, je commence à me détendre un peu.
Michel Delpech a toutes les raisons de se détendre, car l'Olympia est complet tous les soirs.
Vous commencez à vous détendre parce que finalement, on peut dire que ça marche bien pour vous.
Bon, je crois que ça n'a rien à voir, vous savez.
L'Olympia en vedette,
Oui, mais ça, c'est pas très décontractant, ça, au contraire.
Oui et non.
Non, enfin, ça rassure parce qu'on se dit qu'on y est et que c'est bien, mais c'est aussi un petit peu angoissant parce qu'il faut séduire 2000 personnes chaque soir, ça c'est difficile.
Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi.
Et le 30 mars 1972, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à l'Olympia pour applaudir Delpech peuvent l'écouter sur Europe numéro 1. Ce soir-là, l'émission Musicorama retransmet le concert dans son intégralité. Après White is White, le chanteur entonne un autre de ses succès, Chez Lorette. Chanson chère à son cœur, car elle raconte un bout de sa vie, quand il était enfant, et qu'il habitait encore Courbevoie.
Ah ben c'est une histoire vraie, Lorette. C'est une dame qui m'a... Enfin, qui me voyait tous les jours, parce que j'allais dans son petit café à Courbevoie. Et chaque soir, après mes cours, j'allais prendre un petit pot dans son café.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien. chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés, elle payait pour nous, Lorette.
Et si Delpech enchaîne les tubes pour le public de l'Olympia et pour les auditeurs de Musicorama, il a aussi des nouveautés à présenter. Comme celle-là, L'amour en wagon-lit.
Il y en a qui aiment s'aimer sur un lit, d'autres sur le bord du chemin. Il y en a qui préfèrent la mousse des bois. Moi, ce que j'aime, c'est le train. Moi, j'aime l'amour en wagon-lit entre Nice et Paris. C'est bon quand le train roule dans la nuit, l'amour en wagon-lit.
Il faudra ensuite attendre la fin de l'année 1972 pour découvrir la chanson qui marquera durablement les esprits, Que Marianne était jolie, qui raconte subtilement l'histoire de France de la Révolution à mai 1968. Si les paroles sont de Delpech, c'est Pierre Papadiamandis qui en a composé la musique.
Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a cinq enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasait le cœur de Paris en criant dessus les toits. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle. On a connu les printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a cinq enfants, quatre fils qu'elle a perdus, et le cinquième à présent qu'elle ne reconnaît plus. Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix.
Michel Delpech avec Que Marianne était jolie. La suite de notre exploration de l'année 1972 dans le cinquième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.